Alors, en 1615, paraît le traité de l'économie politique écrit par Antoine de Montchrétien. Il y dresse un tableau de la société française assez chaotique, entre une féodalité qui ne dit plus son nom et une modernité qu'il appelle de ses voeux. Au lendemain des guerres civiles, la société française est en pleine mutation. D'après l'auteur, elle lui semble bien trop libre. Un pays sans esclaves ni serfs, ces catégories de travailleurs qui manqueraient alors cruellement à la France. Il prône la réquisition de la main-d'œuvre pauvre afin de développer l'économie de l'État et de lutter contre l'oisiveté des indigents. À maintes reprises, l'auteur cite les hommes, en oubliant la moitié de la population française, les femmes. En réalité, il les cite de temps en temps. Par exemple, quand il leur recommande la chasteté à travers le travail. Ici, il faut entendre le travail salarié. À lire les contemporains d'Antoine de Montchrétien, comme Maximilien de Béthune, duc de Sully, Olivier de Serres, Barthélemy Lafémas et Jean Bodin, qui se sont essayés à théoriser sur l'économie de l'État du Royaume de France, l'économie politique est une économie domestique à trois dominantes. L'agriculture rurale, la manufacture urbaine, il oublie les manufactures qui sont dans les campagnes, et le commerce national et international. Alors je vous propose une réflexion sur le passage de la société féodale à la société dite moderne de l'Ancien Régime, à partir donc de sources primaires, comme a dit M. Viret, d'archives de la France de l'Ouest, principalement archives départementales et archives municipales à Nantes. Et j'aborderai deux points successivement. Le premier point porte sur les concepts du travail. Je voudrais revenir sur ce concept. Et celui du ménage. Qu'est-ce qu'un ménage au XVIe siècle? Et voir avec vous donc leur évolution au cours des XVIe et XVIIe. Le deuxième point tente de montrer le passage de la servitude au travail salarial. Donc du devoir féodal, la servitude, au travail salarial. Et nous irons donc, nous n'irons pas nous, mais au XVIIIe siècle, nous irons jusqu'à la division du travail. Je prendrai pour ce point-là précisément l'exemple des domestiques. Et pour finir, je propose deux études de cas. La première se focalisera sur le milieu de la marchandise, puisque c'est aussi une de mes spécialités, avec Bernard Michon, avec lequel je travaille toujours à Nantes. Et ce fameux trafic, comme l'on dit, dans lesquels les femmes s'aventurent. On les voit beaucoup. Ce qui permettra de parler concrètement de la parenté. Comme dit Bernard Michon sur ce point-là, elles sont partout. La seconde étude de cas sera sur le marché de la terre. Et je prendrai l'exemple de l'histoire de la terre de la Turmelière. Il faut travailler pour se nourrir et se nourrir pour travailler. Écrit Antoine Montchrétien, ce qui, dans le système féodal, ne va pas de soi. La communauté prenant soin de ses membres et de tous ses membres. Et là, il y a aussi la dimension religieuse derrière tout cela. Donc, au Moyen-Âge, l'individu ne dispose pas d'un terme pour désigner ce que nous entendons par travail, au sens travail salarié. Alors, je pense que vous connaissez la définition de Jacques Le Goff, mais je l'aime bien, donc je vais vous la reciter. Le mot « travail » dans son sens moderne n'apparaît qu'à la fin du XVe siècle et ne prend tout son sens actuel qu'au XIXe siècle. Il existe un lien privilégié entre la notion de travail et celle de salariat qui devient une réalité économique et sociale importante seulement à la fin du XVe siècle, mais aussi entre travail et industrialisation, phénomène du XIXe siècle. Au Moyen-Âge, le travail est désigné par son aspect pénible et ignoble, donc ça signifie non noble, et son aspect positif, honorable, parce que créateur. L'historien rappelle les trois notions suivantes. Je suis toujours avec Jacques Le Goff. Labor, qui signifie peine, d'où labourer. Ars, c'est-à-dire métier, d'où artisan. Enfin, opus, soit œuvre, d'où ouvrier ou ouvrier. Au XVIe siècle, le mot « ouvroir » correspond autant à la boutique, c'est-à-dire là où l'on vend, que là où l'on fabrique la marchandise et là où l'on demeure aussi. Vous avez la chambre au-dessus de la boutique. Le mot « travail » en revanche vient du latin « tripalium » qui désigne un instrument de torture, une machine faite de trois pieux. Donc en fait, la valeur défendue par la société féodale jusqu'au XVIe siècle est l'oisiveté. hein, qui est considéré comme un mode de vie. Au début du XVIIe siècle, Jacques Caillaud, donc dans les sept péchés capitaux, reprend la paresse, parce qu'au XVIIe, on passe du mot oisiveté, qui est trop bien connoté, à paresse, qui n'est pas bien du tout connoté. La vie nobiliaire se remplit de passe-temps au XVIe siècle, et dans les milieux ruraux, les nobles consacrent leur temps aux préoccupations de leur maison. Le mode de vie nobiliaire au champ connaît une rupture avec le développement du travail salarié au XVIe siècle, un moment stoppé quand même pendant les guerres civiles. Ce moment de rupture est perceptible dans les sources, hein, ça je le vois. Une lettre de rémission en donne un exemple et je vous en fais un résumé. En 1531, Robin Déhan tue un homme d'un jet d'arbalète, assez fréquent hein, dans ces époques. 4 mois plus tard, il obtient une lettre de pardon royal qui lui évite l'échafaud. Hein. Estant son jardin couché sous un arbre, donc il dort, oui, sa femme criait à haute voix à l'aide et à la force. La rémission ne sera pas accordée. Un an plus tard, j'ai retrouvé la même lettre, qui est de nouveau enregistrée dans le registre de la chancellerie de Bretagne, et là, le discours a changé. Robin Déhan, je vous rappelle qu'il dormait, se rend dans sa maison, en un jardin et herbrégement, pour garder que les oiseaux et bêtes n'eussent gâté du chanvre et blé qu'il y avoit peu de temps auparavant ensemencé au dit jardin, ayant avec lui une arbalète bandée avec traits pour tirer aux oiseaux. Il est donc en position de guetteur d'oiseaux quand il entend sa femme appeler à l'aide. D'une attitude oisive, hein, couché sous un arbre, le suppliant devient un homme actif qui empêche les oiseaux de saccager ses semences. Hein, vous voyez bien donc la différence entre les deux discours. Donc, dans ces lettres de pardon que j'ai beaucoup utilisées, le discours transparaît. Connaître un métier devient valorisant et est même un critère de pardon pour le meurtrier qui travaille pour ce qu'on appelle à l'époque la chose publique. L'oisiveté n'est plus acceptable également pour les femmes. Attention à celles qui n'auraient pas habillé le souper. Je trouve que l'image est toujours très jolie. Ou à celles qui seraient restées au lit pendant la journée. Le mari possède alors un bon critère de pardon pour obtenir une grâce royale après avoir tué son épouse, hein, bien sûr, oisive, qui ne se gouverne pas comme une femme de bien doit faire en mariage. Le travail est élevé au rang de valeur, alors que l'oisiveté devient la mère de tous les vices. Alors, en parallèle, la mendicité devient un interdit social à la fin du XVIe siècle. En 1597, Barthélemy Lafémas propose d'enrégimenter de force les mendiants et fainéants. Alors, qu'est-ce qu'il entend par fainéants ? Qui hantent les mauvais lieux pour les faire travailler dans les manufactures. En 1612, des lettres patentes du roi Louis XIII entérinent leur enfermement à la demande de la régente sa mère, Marie Médicis. Les mendiants sont ici qualifiés de malicieux dans cette lettre patente. L'idée d'enfermer les vagabonds et les mendiants s'étend très vite à tous les pauvres. Au début, on les avait préservés et après, on les met dans le même lot. La mendicité et la pauvreté ne sont plus des valeurs sociales à la fin des guerres civiles. Dans le pays en ruine, la fabrication des produits est stoppée dans beaucoup de villes. Le commerce intérieur est au ralenti, le commerce extérieur est entre les mains des Anglais. Le redémarrage de l'économie française est envisagé dès 1597. Alors, réprimer la mendicité et secourir les pauvres sont les deux recettes proposées au début, puisqu'après, comme je vous l'ai dit, les pauvres vont être associés aux mendiants. Il s'agit de mettre de force au travail toute la main-d'œuvre possible en dissociant les mendiants et les vagabonds des pauvres au départ, ce qui permettra de vider les villes des mendiants, des délinquants, un fléau pour les corps des villes, mais aussi de redresser le royaume. Mais je vous rassure, bien sûr, ces vagabonds ne toucheront pas un salaire de ce nom. Hein. Au XVIIIe siècle, si Adam Smith et Turgot invoqueront le droit au libre travail des pauvres, selon l'argument que, je le cite, « le patrimoine du pauvre est dans sa force et dans l'adresse de ses mains », il n'empêche que la question de la rémunération de l'ouvrier et de l'ouvrière pose problème. Déjà en 1577, Henri III tente de réglementer les métiers et constate la cherté des biens due en partie à celle de la main-d'œuvre. Mais je vais revenir sur les structures sociales de la fin du Moyen-Âge et leur évolution. Au début du XVIe siècle, la structure sociale est encore féodale au Royaume de France autour de la parenté et la maison. La structure familiale, telle que vous pouvez l'avoir en tête, avec une communauté conjugale, est encore théorique hein, à l'époque. Dans les écrits de cette période, l'utilisation du terme « maison » apparaît parfois conjointement avec celui de ménage, mais pas dans le sens que nous entendons aujourd'hui, bien sûr. Alors, c'est Eli Haddad, j'ai vu son livre passé, qui a travaillé sur la définition de maison de Lévi-Strauss. Donc, je reprends, pour tout cela, je reprends toujours les travaux de Eli Haddad. La maison se définit comme une personne morale détentrice d'un domaine composé à la fois de biens matériels et immatériels, le blason par exemple, qui se perpétue par la transmission de son nom, de sa fortune et de ses titres, en ligne réelle ou fictive, parce que quelquefois on arrange un peu les généalogies, tenue pour légitime à la seule condition que cette continuité puisse s'exprimer dans le langage de la parenté ou de l'alliance, et le plus souvent des deux ensemble. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par tous ces problèmes, à lire Eli Haddad. Quant au terme de ménage, dans son sens moderne, que vous connaissez, il n'existe pas. Alors, il s'agit plutôt de le comprendre au sens de l'exploitation au sein d'une seigneurie, par exemple, au début du XVIe siècle. Mais après, il va évoluer, ce sens. Il se rapporte à des personnes qui se rattachent à leur seigneur. Puis, il devient synonyme de maisonnée, composée du couple, de ses serviteurs, de la parenté, souvent les cadets par exemple, et des domestiques. Donc le ménage est une unité économique. Dans les lettres de rémission, je vois beaucoup passer ce terme de ménage. Par exemple, lors d'une noce, Jeanne, il but, mangea et fit bonne chère, tint sa maison, servit ses hôtes et fit son ménage. Voilà. Dans une autre lettre, par exemple, Jacquette Raoul, hôtesse, Catherine Gave et Véné, sa fille, Bertrand le Chantou, René Leclerc, ses servantes, qui faisoient leur ménage et négoce. Donc, il ne faut pas les imaginer avec un balai dans les mains. Donc, c'est la définition de ménage semble beaucoup plus proche de faire ses affaires. Début XVIe siècle, toujours, un autre exemple dans une autre source que je vais utiliser tout à l'heure. Les fermiers doivent laisser l'usage du manoir au cas où se vestre le sénéchal, nous sommes à la Tourmelière, et sa compagne voudrait venir demeurer et ménager. Donc il y a même le verbe ménager. Vous avez donc toute une déclinaison à partir de ménage. Alors je ne résiste pas à vous rappeler que le mot ménagement va donner en anglais management. Voyez. Et je remercie toujours beaucoup Paulette Robic, qui est une prof en sciences économiques, je crois, à Nantes, de me l'avoir signalé. Alors, nous voyons ici que le mot ménage et toutes ses déclinaisons n'a pas une seule définition, mais plusieurs. Alors, je vais conclure là-dessus avec Olivier de Serres. On dit bien vrai qu'en chacune saison, la femme fait ou défait la maison. Son modèle est celui, le modèle d'Olivier de Serres, est celui du père de famille, donc c'est un modèle qui vient d'apparaître, fin 16e, qui se fait respecter par tout son entourage et en premier lieu par sa femme, dont le rôle est avant tout domestique. C'est de l'ordonnance antique, dit-il, que les affaires des champs demeurent au mari et celles de la maison à la femme, avec toutefois communication de conseils pour tant mieux faire aller le ménage. Mais il constate, quand même, c'est Olivier de Serres, que l'homme a manifestement le bon rôle. Car en se promenant avec récréation, il fait sa charge, ses affaires étant où son plaisir le mène. Et il constate que la femme a la lourde charge de nourrir toute la maisonnée, sans lui donner une heure de relâche. Pour la soulager, Olivier de Serres suggère de ne plus nourrir les serviteurs, mais soit de les payer, soit de leur donner des aliments pour qu'ils puissent se nourrir par eux-mêmes. Ce procédé libère la mère de famille, ce qu'il lui appelle la mère de famille. Les femmes des villes, en premier, sauront en profiter. Ça, dans les sources de la deuxième moitié du XVIe siècle, on voit énormément de problèmes de gages en ville. Elles rétribueront plus facilement leurs gens de service. Ça sera nouveau. Ces citations d'Olivier de Serres montrent la mutation donc sociale dans le royaume de France, dans les dernières années du XVIe siècle, le passage d'une activité peu ou pas rémunérée à un travail salarial. Alors, donc, je vous avais dit que je prendrais dans un deuxième point l'exemple des serviteurs parce que c'est un mot que vous lisez dans les sources au XVIe siècle, et les chambrières. Alors, sachez que le mot chambrière est le féminin de chambrier, mais les chambriers disparaissent au XVIe siècle. Pour Philippe Ariès, la société du XVIe siècle apparaît comme une société personnelle du service, dominée par des relations hiérarchiques. et donc nous allons retrouver ces relations. Les serviteurs, alors les domestiques, c'est un mot qui n'existe pas au XVIe siècle, moi je ne le trouve pas, mais bon, c'est commode, on va dire. Donc je l'utilise par commodité. Donc ces serviteurs et les domestiques s'insèrent dans une... Vous voyez, je fais bien la différence entre serviteur, qui normalement n'est pas payé, avec le domestique, qui lui est payé. Donc ils s'insèrent dans une communauté à la tête de laquelle se trouve un maître ou une maîtresse. Alors je trouve leurs traces partout, hein, dans les contrats de mariage, les testaments, les protêts, c'est une source financière, ou dans les pièces juridiques. Au XVIe siècle, le terme de serviteur ou serviteure est utilisé dans le sens au service de. Le serviteur peut être un parent, d'ailleurs c'est souvent le cas, les cadets par exemple sont serviteurs, hein, des aînés. D'autant que le service fait partie de l'éducation d'un enfant. À l'époque, ce n'est pas la communauté conjugale qui s'occupe de l'éducation, mais la communauté au sens le plus large. Donc vous retrouverez l'enfant d'un noble comme page dans une autre maison noble, et l'enfant du village, donc roturier, s'associera au travail de la communauté. Le besoin de main-d'œuvre explique la propension des hommes et des femmes à devenir domestiques, même temporairement. Ils ne sont pas forcément rétribués, hein, pas toujours, mais en contrepartie, ils sont logés et nourris. Ceux qui sont salariés récupèrent leurs gains à la fin de leur service, même au bout de plusieurs années. Ou alors ils seront couchés, par exemple, dans les testaments, s'ils n'ont pas été salariés. Le point commun entre ces serviteurs au sein d'une même maison est le célibat, qui semble être une nécessité, en tout cas quand ils entrent, hein, comme serviteurs. Parfois, une femme mariée reste domestique conjointement avec son époux quand le maître ou la maîtresse accepte la situation. Parce qu'il faut l'autorisation, hein, des maîtres et maîtresses. Alors, parmi les serviteurs, la chambrière est le minimum requis dans une maison. Alors, il y a les chambrières du curé, donc souvent la concubine, puisque les curés vivent en concubinage. Il y a les chambrières dans les maisons nobles et des bourgeois, donc l'élite, on va dire. Et il y a des chambrières chez les roturiers. Vous êtes roturier, vous avez juste une ferme, etc. Et vous avez des domestiques chez vous. Vous ne pouvez pas faire autrement à l'époque. Alors, les relations entre les domestiques et leurs maîtres et maîtresses sont parfois conflictuelles, heureusement, puisque nous les retrouvons aussi par ces pièces. Et donc, j'ai regardé les sources de la police domestique de la ville de Nantes entre 1566 et 1575, qui montrent des condamnations au sujet du paiement des gages non effectués en fin de service. Parce que, voilà, s'il quitte avec l'accord du maître et de la maîtresse, il doit partir avec ses gages. Alors, par exemple, en 1575, Madeleine Mabie est enfermée chez sa maîtresse. Vous voyez, j'ai toujours les noms quand même. On dit que les domestiques n'ont pas de nom. Ce n'est pas vrai. Alors, Madeleine, donc Mabie, est enfermée chez sa maîtresse car elle désire se marier et quitter leur service. Donc, bien sûr, ils ne veulent pas. Le conflit se termine devant les échevins qui obligent la maîtresse de la chambrière à payer ses gages malgré la relation de domination et de possession, hein, très prégnante, opérée sur la domestique. Elle est même enfermée. Enfin, c'est assez horrible, hein, ce qu'ils lui font subir. Alors, bien entendu, cette source ne montre que les conflits, mais il y a d'autres sources, comme les testaments, qui donne une autre vision des relations donc, entre les maîtres et maîtresses et leurs gens. Alors, je vais vous en donner un. En 1580, un exemple, 1593, Jeanne de Goulaine, c'est une noble, donne à Robert Le Bris, sa fille de chambre, la somme de 200 écus sol et tous ses accoutrements de laine, camelot et moquette. Alors, qu'est-ce que la moquette en 1593? Je ne sais pas. Et toutes mes petites lingeries, dit-elle, quoi, écrit-elle, qui lui servent ordinairement, chemises et autres petites lingeries. Elle rembourse sa fille de chambre qui lui a avancé la somme de. Donc, c'est la fille de chambre qui a avancé à la noble, hein, une somme, hein, de 52 écus. Et de même, elle donne à un couple, à son service, Mathurin Cadiot et Jeanne Puissant, sa femme, pareille somme de 100 écus, outre les payer de ce que leur reste de leur gage. Donc, vous voyez, tout cela, on les a dans les testaments. Alors, elle ajoute ne pas vouloir que ladite Jeanne soit recherchée des vieux linges que lui a baillés en charge, parce qu'après, les héritiers peuvent contester, hein, les testaments. Alors ici, elle remercie le couple à son service, c'est très bien, mais alors, dans ce même testament, elle rembourse René Dupuis, dont le métier est brodeur. Vous voyez, on parle toujours des brodeuses. Non, les métiers varient, hein, selon les époques. Alors, si je reviens donc à la chambrière, une fonction domestique qui a évolué, au bas Moyen Âge, le statut de la chambrière semble peu enviable. Elle est au service de la femme ou du seigneur pour les plus vils et les plus laborieux offices. Elle est souvent battue. Alors ça, Christine de Pisan en parle beaucoup de cela. Au XVIe siècle, donc à la fin, 100 ans plus tard, on va dire, Olivier de Serres dit que ces choses non seulement dangereuses, mais monstrueuses, que la présomption du serviteur et de la chambrière, disant que la terre se trouble quand le serviteur règne et quand la servante hérite à la maîtresse. Donc lui, Olivier de Serres, il n'est pas du tout d'accord pour que ces gens règnent, comme il dit, sur une maison. Alors cet auteur ajoute que les chambrières et servantes, ou serviteurs, mais enfin lui, à la fin du XVIe, on dit déjà servantes, doivent être employées aux ouvrages réservés à leur sexe. Hein, ce rappel donc à l'ordre pour bien montrer qu'à l'époque, les hommes et les femmes n'ont pas des rôles très, très délimités. Alors, une nuance reste à éclaircir pour moi. Je constate une différence de traitement par les maîtres et maîtresses entre les domestiques issus de la communauté immédiate. Alors, elle peut être villageoise, familiale, seigneuriale, même dans un quartier, hein, en ville, et ceux venus de l'extérieur du groupe, donc les domestiques qui viennent, qui immigrent vers une région, par exemple. Et dans le journal de Gouverville, je vois M. Roubsart ici, j'avais vu que Gilles Picot, donc le sieur, hein, le fameux sieur de Gouverville, prend soin de ses serviteurs, ça, il n'y a pas de souci, filles et garçons issus de sa communauté, hein, qui est sous sa protection. Mais en revanche, il loue les services de foire à la il loue les services de la femme, ou des femmes plutôt, à la foire ou au marché, cela dépend des fois, pour des durées limitées. Alors celles qu'il loue, eh bien, sont payées en numéraire pour leur service. Il est manifeste qu'elles servent aussi au plaisir sexuel des hommes du manoir. Elles reçoivent pour cela des cadeaux, comme des épingles ou des souliers, en plus de l'argent. En revanche, quand un homme du manoir harcèle sexuellement une fille de la communauté, Gilles de Gouverville a le devoir de la protéger, de lui rendre justice, et il le fait. Donc, appartenir à une communauté donne une position sociale et des droits de protection, même pour les serviteurs, hommes comme femmes. Isolés, ils perdent cette protection. Pourtant, quantité de domestiques quittent les campagnes pour les villes, migration qui favorise le passage d'une société féodale à celle mercantiliste, donc au XVIIe siècle. Alors, je vais quitter ces domestiques pour vous parler de Jeanne Couillot, qui est une femme que je suis depuis quelques années, qui a vécu dans la deuxième moitié du XVIIe, et donc je vais la présenter comme étude de cas. Avant de la présenter, je vais quand même contextualiser et la remettre dans son milieu, qui est le milieu du commerce. Alors, la tradition de mise en dépendance des femmes et l'inusable argument de l'imbécilitas sexus, donc qu'il faut traduire « sexe faible », font de la femme un être juridiquement incapable. Pourtant, comme le souligne le juriste Jean Portemer, la société donne à la femme une place infiniment plus large que ne le laisserait prévoir l'application des règles juridiques. Je pose la question, est-ce que les femmes ont-elles le droit de travailler ? Eh bien oui, elles ont bien le droit. Parce que, au premier abord, la réponse semble évidente, non. Et pourtant, si, au XVIIIe siècle, donc 200 ans après mes travaux, le juriste Guillot ne va pas du tout dans mon sens. Il considère que c'est la nature, hein, là on va vers le droit naturel que développeront les philosophes, qui a destiné la femme au foyer. Moi, ce n'est pas du tout ce que je vois deux siècles avant. Le mari naît pour les affaires du dehors de la maison et la femme consacrée à celle du dedans. On revient à Olivier de Serres. Donc ça montre bien que les discours de la fin du XVIe siècle n'ont pas abouti dans les pratiques. Alors il est donc normal qu'elle ne puisse rien faire hors de la maison sans son mari, dit-il, ce fameux juriste Guillot. Il y a un grand écart entre les juristes et les pratiques. Pourtant, des usages permettent aux femmes d'avoir une autonomie économique. Par exemple, à Nantes, que j'ai beaucoup donc étudié, les veuves de marchands peuvent garder le commerce de leur communauté conjugale. Là, on ne parle plus de parenté et d'héritage par les lignages, mais bien de communauté conjugale. Et elles peuvent donc, ces veuves, garder le commerce après le décès du mari, et même si elles ont des enfants vivants et même majeurs. Vous voyez, donc elles ont des droits énormes. Quand les usages autorisent les femmes à jouer un rôle économique, elles n'en sont que plus visibles, hein, puisque c'est tout mon intérêt, moi, hein, c'est de faire... de rendre visibles ces femmes et ensuite de voir comment la société se comporte et comment les rôles sont établis entre les hommes et les femmes. C'est ce qui m'intéresse. Donc elles n'en sont que plus visibles. Dans les inventaires, par exemple, pour succession, elles sont partout. Les lingères en leur nom prisent le textile du défunt ou de la défunte, hein, pour l'établissement de l'état des meubles. Dans les procès pour succession et partage, les marchandes sont listées en leur nom comme créancières du défunt ou de la défunte. Alors, voici Jeanne Couillot. Je suis partie d'actes notariés, d'une étude complète. Il n'y a pas de moment où je voyais, à Nantes, que je voyais Couillot frappait le nom de son mari. Je prenais les actes, vous voyez. Et après, j'ai donc constitué ce réseau en retirant les actes privés. Pas de mariage, pas de testament, voilà. Que des actes d'affaires. Et voilà le résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas... ici, son mari qui apparaît au centre, mais c'est bien elle. Je n'ai rien fait. C'est un algorithme mathématique qui vous permet de faire ces réseaux. Et donc, quand j'ai vu au résultat qui était bien central, alors que je n'avais pas fait un réseau égocentré, puisque j'avais pris toute la parenté, cela montre l'importance de cette femme. Et donc, ce qui est intéressant également, alors là, je vous demande de me croire sur parole, c'est qu'elle commence ses affaires bien avant la mort de son mari. Elle a, je crois, 7 enfants en bas âge quand il meurt. Donc, elle a une grande famille, mais elle ne les élève pas. Hein, donc, elle n'a pas ce problème-là. Et donc, elle fait ses affaires avant la mort de son mari, en dehors de lui, complètement séparément. Elle a le droit. Et c'est ce qu'elle fait. Alors, ce qui est très drôle, c'est que son mari a comme réseau d'affaires la famille de sa femme. Et quand lui meurt, elle casse ce réseau et elle prend son beau-frère, donc le frère de son mari, et elle se tourne vers lui, il lui prête de l'argent, elle bénéficie certainement de son réseau à lui, et elle en constitue un nouveau, basé également certainement sur les affaires qu'elle avait faites avant la mort de son mari. Donc on pourrait croire que l'épouse est complètement assujettie à son mari, dépend complètement de lui. Et ça, c'est un mythe, hein, qu'il faut absolument détruire, ce que je fais quotidiennement. Voilà, ça c'est pour Jeanne Couillot. Ensuite, je voulais longuement vous parler de la Tourmelière. Alors, la Tourmelière, c'est une terre à Château-Thébault, et il y a le domaine de la Tourmelière aujourd'hui sur Internet, donc j'ai pris la photo. Alors, bien sûr, je ne peux absolument pas vous dire à quelle date ce bâtiment a été construit, mais enfin, il me paraît quand même ancien. Et nous sommes ici, en plein milieu du vignoble nantais. Un Clisson n'est pas loin, le Palais, tout ça, ce sont des vignobles. Et déjà, à l'époque, ça devait être des vignobles, je pense. Cette fameuse terre qui a eu une histoire absolument incroyable que je vais vous conter. Et je vais prendre du temps, parce que je pense que c'est assez significatif. Alors, j'ai fait 2 réseaux, l'un de parenté avec la généalogie, et l'autre, c'est un réseau que j'ai fait du circuit de la Terre, toujours avec notre Dixel, pour essayer que ça soit une aide à ma narration. Hein. Donc, parce que c'est assez compliqué. Alors, au XVe siècle, cette terre fait l'objet d'un transfert qui va être source de conflits pendant 100 ans. Donc, ce n'est pas rien. Et j'ai retrouvé dans les archives, sur Internet, quoi, un peu partout, des actes concernant ce conflit qui a dû être majeur quand même dans cette région pour qu'on ait autant de traces. Première phase, en 1467, Jeanne de Chambellan est veuve de Sevestre de Carnet. Ils sont tous les deux nobles. Et donc, elle est veuve quand elle se remarie en seconde noces avec Sevestre, le sénéchal. Tous deux encore sont son homme. Bon, pas de souci. De son premier mariage, avec Sevestre de Carnet, est né au moins un garçon vivant, François. Dans le contrat de mariage de 1467, elle donne, donc elle fait un don, à son futur second époux du tiers de ses héritages. Donc héritage veut dire les biens immeubles qu'elle a reçus soit de son père, soit de sa mère. Et parmi ces héritages, donc, il y a la tourmelière qu'elle remet, qu'elle donne à son mari. Cela signifie qu'elle déshérite, dans un sens, son fils de son premier mariage. Mais elle a le droit, la très ancienne coutume de Bretagne l'y autorise pour un tiers. C'est ce qu'elle fait. Elle met au monde un autre fils, qu'ils appellent également François, donc comme ça on ne se trompe pas, sauf que pour nous ça devient plus compliqué, et ce fils donc est vivant, hein, issu de cette seconde union. Donc normalement, c'est lui qui devrait hériter de cette terre, hein, par son père. Eh bien non, le père cède la terre à Olivier Hamon, qui est noble. Donc il déshérite son fils à lui. Donc les deux fils ont été déshérités. Deuxième phase. Alors, l'effet aurait pu s'arrêter là. Or, au même moment, alors je pense que le premier fils, ici, de Carnet, je pense que le premier fils a dû être mécontent de cela, de cette vente, hein, de cette aliénation. Et, bien, au même moment, il a vend cette terre lui-même à un marchand, Guillaume Guillaumard. Vous avez deux circuits en parallèle. La terre est vendue deux fois. Ce Guillaume Guillaumard, marié, a lui-même une fille, Guillemette, une héritière donc, et que j'ai pu suivre parce qu'elle a eu une certaine longévité. Alors, cette Guillemette a un rôle déterminant. Elle a eu trois époux successifs, dont je ne sais pas grand-chose, je l'avoue. Cinq enfants vivants en sont issus. Donc, si je me mets sur la généalogie, Jeanne de Caradreux, ensuite deux enfants parés. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, hein, du nom. C'est Paré, pas Paris, Pars. Enfin bon, j'ai choisi Paré. Et puis, les Levoyer. Mais la différence entre ces trois mariages, c'est que son dernier mariage, elle l'a fait avec un certain Levoyer qui était noble. Alors qu'elle elle est roturière, Guillemette. Et c'est là où il va y avoir une panique, hein, certainement, puisque ce ne sont pas les mêmes règles pour les nobles que chez les roturiers. Donc, quand elle décède, Guillemette, eh bien, la terre de la Tourmelière, qui est un fief, hein, je le rappelle, revient à ses cinq enfants qui se mettent en indivision. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait, à l'époque, avoir un fief en indivision. Là, donc, voilà. Ensuite, troisième phase. Le temps passant, Roland Levoyer, qui est noble donc, par son père, comme je vous l'ai dit, épouse Marguerite de Lille. Il épouse Marguerite de Lille. Et ce mariage a un intérêt évident. Marguerite de Lille est parente de Louise Gohaut, qui est elle-même héritière du fameux Hamon. Donc, par ce mariage, il récupère une terre vendue de ce côté-là, et il hérite aussi d'une partie par sa mère. Il est fort quand même, hein, ce Roland. Donc, on en est là, mais bien sûr, les autres enfants ne vont pas se laisser faire. Et il y a surtout une femme, Jeanne Caradreux, qui est un personnage extraordinaire. Donc, je vous le rappelle, une fille du premier mariage. Et elle se marie avec Pierre Bernard, issu d'une grande famille de marchands à Nantes. Elle reste donc dans le milieu social de sa mère. Et peut-être de son père, puisque je ne connais pas son père. Son but est de récupérer pour elle, seule, la terre de la Tourmelière, au détriment de ses frères et sœurs. Et donc, elle va y avoir des procès pendant de nombreuses années pour essayer donc pour qu'elle puisse récupérer cette terre dans sa globalité et non pas seulement un tiers. Donc je vous passe les nombreux procès, conflits, en plus il y a des conflits entre Roland et son frère, etc. Donc il y a énormément de pièces judiciaires pour cette terre. Et puis il y a des moments où on s'arrange, hein, entre soi. Donc il y a des moments, par exemple, Jeanne s'arrange avec ses demi-frères et demi-sœurs contre Roland, par exemple. Vous voyez ? Donc c'est assez ubuesque. Alors Roland prend une décision. Il fait appel au duc de Bretagne. C'est la quatrième phase, ce sont les années 1540. Donc en 1545, le dauphin Henri, c'est le futur Henri II que nous connaissons, il émet un amendement en faveur de Roland Levoyer et sa femme. Et dans ce mandement, il est dit que la terre leur appartient par la donation et accord fait entre Louise Gohaut, dame de Souchet, héritière de Olivier Hamon, seigneur de Souchet. Cet acte royal décrit les relations entre les frères et les sœurs et donne un autre point de vue. En réalité, c'est là où on voit que Roland se serait fait avoir parce qu'il était jeune, sa femme aussi, ils avaient 20 ans, et donc sa sœur en aurait profité. Bon. Le mandement insiste donc sur la tromperie de Jeanne et de son mari, Pierre Bernard, on passe donc sur ce mandement qui, a priori, pourtant, donne la terre à Roland. Eh bien non. Parce que Roland va faire, Jeanne va faire appel. Alors on pourrait penser que le mandement du roi suffit. Eh bien non. Donc le litige reprend avec la sœur aînée, et puis et ça continue pendant quelques années. Alors en août 1545, donc au moment du mandement, Jehan, le voyer, est lui-même en procès contre son frère aîné. Et c'est là où ils finissent par vraiment se liguer contre Roland, puisque Roland, en plus, dilapide ses terres. On apprend qu'il vend le fief en petits morceaux. Et donc là, le frère noble, lui, n'apprécie pas du tout. Ça ne se fait pas. Alors, en 1547, Roland, toujours en procès, alors avec, par exemple, Françoise Paré, etc., réclame, dans un autre procès, l'héritage de sa mère. Donc, on se rend bien compte que là, il y a dû y avoir quelque chose, puisqu'il revient à la charge. Alors que normalement, avec le mandement, il était tranquille. Donc voilà, alors je vous passe les nombreuses péripéties. L'avantage de Roland, c'est qu'il y demeure. Et normalement, quand vous demeurez dans un domaine, c'est que vous êtes le possesseur. Alors, je dis bien possesseur, c'est pas, le mot propriétaire n'est pas utilisé. Alors dans la dernière phase, de 1560 à 1570, on apprend que Jeanne Caradreux a eu plusieurs enfants, dont une fille Catherine. Elle la marie avec Jean Boutin, qui est un grand nom des chevillinages et qui deviendra mère d'ailleurs vers 1559. Et Jeanne meurt juste après ce mariage. Alors là, le procès remonte carrément à la cour de parlement. Donc voilà, nous apprenons que Jacques Bernard, le fils de Jeanne Caradreux, est. Je vous ferai remarquer que les femmes gardent leur nom. Ça, c'est très important. Jacques Bernard est qualifié d'honorable homme, sieur de la Tourmelière. Et là, on apprend que la seigneurie de la Tourmelière a changé de statut et est devenue une sieurerie, simplement. Et ce Jacques Bernard, digne fils de sa mère, Jeanne, il continue à essayer de reconstituer cette terre. Il a épousé lui-même Jeanne Poulain, qui est issue d'une grande famille marchande de Nantes que je connais très bien. Donc voilà, les marchands continuent. Alors, à partir de 1570, la procédure disparaît faute de combattants, parce qu'ils meurent quand même. Tous les enfants meurent. Et là, nous retrouvons Jeanne Poulain, donc la femme de Jacques Bernard. On la retrouve devant encore une procédure, et qu'elle va gagner. Et là, je me suis permis d'ajouter ce petit paragraphe parce que je le trouve quand même très intéressant, surtout ici pour le polo rural. En décembre 1581, Jeanne Poulain prend possession juridiquement de la terre noble de la Tourmelière au titre de tutrice de ses enfants. C'est pas pour elle, parce qu'elle, elle est par alliance, elle l'a pas par le sang. Pour cela, elle respecte un rite judiciaire particulier. Et c'est ça qui est intéressant. Les greffiers et sergents de la cour judiciaire la mettent en la possession réelle de la terre, maison, jardin, pré, vigne, métairie et appartenance d'Issel. Pour cela, ils entourent le domaine. Ils entourent. Alors, je ne sais pas comment ils font pour entourer. Ils allument un feu et ils tuent le feu. Ils boivent, ils mangent, ils prennent et cueillent des herbes de jardin. Ils ouvrent et ferment les huisses, donc les fenêtres et portes des dites maisons, et dit cette chose en présence de témoins de l'entourage de la nouvelle possesseur. Re, avec un E. Donc voilà, ça c'était un rite judiciaire que j'ai particulièrement apprécié. Donc c'est Jeanne Poulain qui récupère la terre de la Tourmelière. Alors pour conclure, je voulais dire qu'à partir du XVIIe siècle, s'affirme l'idée de convertir le travail en une notion positive. C'est un nouvel ordre moral et une volonté économique qui sont à l'œuvre au sein des sociétés mercantilistes comme la France. La mise en œuvre d'un nouvel ordre social par le travail bouscule les rôles assignés aux hommes comme aux femmes. La structure sociale en est modifiée. On va passer maintenant à une communauté conjugale et le droit va évoluer. La hiérarchie est bousculée, car le classement social dépend de la valeur de leur travail et pas seulement de la dignité. C'est ce qui fait dire à Robert des Simons que le XVIIe siècle devient le siècle de l'argent, alors que le XVIe est le siècle de la dignité. Ce phénomène peut sembler ne concerner que les villes. Cependant, les rapports étroits entre les campagnes et les villes, nous venons de le voir avec la terre de la Tourmelière, montrent que les changements de mentalité et de structure de la société se répercutent au champ, automatiquement. Si le travail salarié a investi la ville, les notables que sont les marchands, investissent leur argent dans la terre, noble de préférence quand même. Pour le juriste du XVIe siècle, Charles Dumoulin, pareil, fin XVIe, je crois, la féodalité n'existe que par la terre. Or, au XVIIe siècle, le travail apparaît comme la source de la prospérité publique. Ce sont deux systèmes en parallèle qui vont s'affronter. Merci.